Voilà, ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 8. Proverbes, chapitre 16, verset 8. Il est écrit « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. » Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Et verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Amen. Voilà, ce soir, j'ai eu à cœur de m'arrêter sur ces trois proverbes et nous allons comprendre, nous allons voir pourquoi. Nous voyons cette expression dans ces trois proverbes similaires, ce point commun, cette expression « mieux vaut ». Et nous voyons que c'est une expression que la parole de Dieu, que Dieu utilise dans sa parole à plusieurs reprises, que ce soit dans les proverbes, si on regarde Proverbe 15, verset 16, il est écrit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble ». Chapitre 17 « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles ». Et à plusieurs reprises, si on prend les proverbes, il y a à plusieurs reprises cette expression, mais elle ne se retrouve pas que dans les proverbes. On la voit dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que c'est une expression qu'il a utilisée et qui nous parle à nous aujourd'hui. Mieux vaut. Et dans ces proverbes, peut-être que vous ne le savez pas, c'est Salomon qui les a écrits. C'est Salomon qui les a écrits et il est important de se rappeler que Salomon était un roi et un grand roi qui vivait dans une abondance à tout niveau, matériel, au niveau de l'intelligence, il avait un savoir très grand et spirituel, on pourrait dire aussi, parce que le Seigneur lui a parlé, lui a donné de connaître aussi cette abondance spirituelle, d'ouvrir les yeux sur les réalités invisibles. Et cet homme avait donc ce recul dans sa vie, cette position devant toute cette abondance, d'avoir une analyse, d'avoir une analyse de la vie. Et il va pouvoir, du coup, à trois reprises dans ce psaume, utiliser cette expression « mieux vaut peu avec justice que d'abondants revenus ». Nous avons lu, verset 8, « que d'abondants revenus avec l'injustice ou sans droiture », une autre version dit. Nous avons lu « combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux ». Ces trois versets, ces trois proverbes qu'il va donner sont liés, sont mis en opposition, on dirait, et on verra que ce n'est pas une réelle opposition, mais en apparence sont mis en opposition avec les biens terrestres, l'argent, les abondants revenus, l'or, le butin. Et je me suis dit que pour chacun d'entre nous encore, c'était important de savoir, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit, c'est la parole de Dieu qui nous le montre, qu'il y a des choses qui valent bien plus, qui sont incomparables avec ce que nous pouvons voir sur cette terre, avec les choses terrestres. Parce que c'est de ça dont il est question à chaque fois, cette comparaison, cette opposition avec les choses terrestres. Et pour nous, nous savons, nous vivons dans un monde très matériel, le matérialisme, on est influencé par ces choses-là. Et vraiment, il est important de savoir ce qu'il y a de meilleur, mieux vaut. Le Seigneur veut nous amener dans ce qu'il y a de meilleur, par ses expressions, par ses versets, par sa parole. Et peut-être que vous connaissez ce proverbe qui dit, ce proverbe qui n'est pas biblique, « Le mieux est l'ennemi du bien ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. « Le mieux est l'ennemi du bien ». Ce proverbe signifie qu'en cherchant mieux, on risque de perdre ce qui est bien. Voilà. C'est un proverbe qui n'est pas biblique et qui même n'est pas dans la pensée même de ces proverbes que l'on partage. Le mieux est l'ennemi du bien. Parce que nous voyons que Dieu voudra toujours nous amener dans ce qu'il y a de mieux, dans ce qu'il y a de meilleur. Et est-ce que vous le croyez ça? Est-ce que vous le croyez vraiment? Que Dieu a ce qu'il a de meilleur pour chacun d'entre nous. Que sa volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Est-ce que vous le croyez vraiment? Non, j'insiste parce que vraiment c'est ce qui est venu sur mon cœur afin de justement avoir cette attitude cohérente. Si on croit que le Seigneur a ce qu'il y a de meilleur, c'est important d'y être attaché et de l'accepter, et d'accepter ce par quoi il nous fait passer. Parce que si on accepte qu'il a ce qu'il y a de meilleur, cela revient à accepter que les circonstances de nos vies sont conduites et dirigées par le Seigneur pour nous conduire dans ce qu'il y a de meilleur, quand on est ses enfants et quand on lui obéit. Paul a pu reprendre les Corinthiens, justement dans ce domaine-là, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, on peut voir Paul dire aux Corinthiens, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » On voyait qu'il y avait ce problème dans l'église de Corinthe. Ils s'assemblaient, non en ayant cette pensée de chercher ce qu'il y a de meilleur, chercher à devenir meilleur, parce que non seulement Dieu a ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous, mais il veut nous amener à devenir meilleur. Et il y avait ce problème dans l'église de Corinthe, et il ne faudrait pas qu'il y ait ce problème dans nos vies. Et on voit que justement, Paul pour cela a donné cette exhortation à la fin de ce livre aux Corinthiens, de la première épître, au chapitre 15, verset 58. Il a pu les exhorter en leur disant « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlable, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » On voit cette exhortation dans le cœur de Paul pour amener les Corinthiens à travailler de mieux en mieux, à aller dans ce qu'il y a de mieux, à rechercher ce qu'il y a de meilleur, mais non pas comme dans ce monde. Parce que c'est vrai que dans ce monde, il y a aussi ces pensées de toujours vouloir ce qu'il y a de meilleur, de toujours vouloir progresser dans le travail, dans tous les domaines. On peut voir toutes ces pressions qui sont mises pour progresser, pour du résultat, pour arriver à l'excellence. Et il ne faudrait pas non plus se tromper. Parce que le Seigneur nous donne de travailler de mieux en mieux, parce que lui a donné ce qu'il y avait de meilleur, pour que nous devenions meilleurs. Et il nous faut bien considérer cela. Le Seigneur a tout accompli, et ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons travailler de mieux en mieux, être meilleurs, entrer dans ces choses merveilleuses, mais c'est seulement parce que Dieu a tout accompli, c'est cette œuvre qu'il veut faire par la suite dans nos vies et dans nos cœurs. Dieu a donné, je le répète, Dieu a donné ce qu'il y avait de meilleur. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même en venant sur cette terre, en venant sur cette terre pour mourir à la croix, payer le prix de nos péchés, nous donner de pouvoir recevoir sa vie, ce qu'il y a de meilleur, sa présence dans nos vies et dans nos cœurs, qui nous donne d'être transformés. Et c'est cela encore ce soir que j'aimerais vraiment que l'on considère, que vraiment on réalise encore dans nos cœurs l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui a enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée, et qui nous enseigne justement à abandonner les choses de moindre importance pour gagner celles qui sont de grande valeur. À abandonner les choses de ce monde qui sont futiles, inutiles. Il ne nous appelle pas à ne plus nous occuper des choses de ce monde. Il ne faut pas être excessif, mais marcher dans l'équilibre. Mais il nous appelle à quand même garder les yeux fixés sur ce qu'il y a de meilleur. Savoir mettre de côté ce qui est futile, inutile. Perdre notre vie, nous abandonner entre ses mains nous donner entièrement pour lui, pour l'Évangile, afin de retrouver notre vie, afin de retrouver eh bien, la vie qu'il nous donnera dès ici-bas, dès maintenant, mais la vie éternelle. Et aujourd'hui, donc, l'exhortation vraiment qui est là sur mon cœur, c'est celle de veiller. De veiller à ne pas rester dans le bien. Alors ça peut peut-être être étonnant et vous interpeller, mais comprenez. Comprenez-moi bien, le Seigneur nous appelle, bien sûr, à faire le bien. Et on pourrait dire que c'est déjà très bien de pratiquer le bien. C'est déjà très bien de pratiquer les œuvres du Seigneur, ce qu'il nous demande de faire ce qui est bien. C'est déjà excellent, on pourrait dire que c'est très bien. Mais vous avez vu, j'ai fait exprès de prendre ce proverbe que l'on entend dans ce monde, « Le mieux est l'ennemi du bien ». Parce qu'en fait, ce proverbe, il est intéressant pour nous quand on le met à l'opposé. Le mieux est l'ennemi du bien, ça c'est ce qu'on entend. Mais on pourrait dire que le bien est l'ennemi du mieux. Est-ce que vous me comprenez? Le bien est l'ennemi du mieux. Non, vous allez voir, c'est pas grave. C'est qu'en fin de compte, ce qui peut nous empêcher d'entrer dans ce qu'il y a de meilleur, dans ces vaut mieux, c'est d'être parfois dans le bien et de se contenter, de se satisfaire des expériences passées, de ce que l'on a pu connaître. Je suis bien, je connais ce qui est bien, je fais ce qui est bien et je m'en arrête là. Et ce qui est dommage, et nous l'avons vu ensemble, c'est que bien, le Seigneur a ce qu'il y a de meilleur. Mais réellement, concrètement, et pour chacun d'entre nous, sans aucune exception. Et il veut nous donner de pouvoir l'expérimenter au quotidien. Et justement, en nous faisant passer de ce stade d'être bien à ce qu'il y a, et à rechercher toujours ce qu'il y a de mieux. Et donc, j'aimerais m'arrêter ce soir sur ces trois proverbes que nous avons lus, pour voir des attitudes concrètes, pratiques. Hein, ces trois vaut mieux, hein, ces trois mieux vaut hein, qu'on a lus. Et ces trois proverbes qui nous amènent à entrer dans ce qu'il y a de meilleur. Premièrement, mieux vaut peu avec justice que d'abondants revenus sans droiture. Mieux vaut peu avec justice que d'abondants revenus sans droiture. On pourrait résumer cette pensée en disant mieux vaut un cœur droit. Mieux vaut un cœur droit. Qu'est-ce qu'un cœur droit ? Ben, un cœur droit, c'est un cœur qui pratique la justice. Mieux vaut peu avec justice. Un cœur droit, c'est un cœur qui pratique la justice, qui pratique ce que la parole de Dieu nous annonce, qui pratique la vérité, qui marche dans la droiture de Christ. C'est un cœur droit, c'est un cœur qui n'est pas double, c'est un cœur qui n'est pas hypocrite, mais c'est un cœur qui est vrai, un cœur qui est sincère, un cœur qui est sans masque. C'est ça un cœur droit. Et le Seigneur nous appelle à choisir, parce qu'il y a un choix, mieux vaut un cœur droit, mieux vaut peu avec justice que d'abondants revenus sans droiture, mieux vaut un cœur droit. Et ce soir, si justement tu te poses cette question, mais comment avoir un cœur droit? Si dans ta vie tu n'as pas un cœur droit, comment faire pour avoir un cœur droit? C'est pas peut-être chose facile. Mais le Seigneur, je l'ai dit, a tout accompli, a donné ce qu'il y avait de meilleur, pour que nous puissions justement entrer dans ce qu'il y a de meilleur. Il a donné sa vie à la croix, et c'est ce qui nous donne de pouvoir avoir un cœur droit, quand on l'accepte, quand on le reçoit, quand on se repent, quand on lui demande pardon pour tous nos péchés, il nous donne d'être purifié, d'être lavé, d'avoir un cœur droit, et de pouvoir eh bien, obéir, et comme le disait Jonathan, de pouvoir obéir joyeusement, à ses commandements, à ses directives, à ses enseignements, à ses conseils, qui sont tous des invitations à entrer dans ce qu'il y a de meilleur. Oui, le Seigneur a tout accompli pour que nous puissions avoir un cœur droit. Alors ce soir, le Seigneur te dit, mieux vaut pour toi. Il y a ce conseil, ne te contente pas de ce que tu peux vivre, de ce que tu as pu expérimenter jusqu'à présent, mais il y a ce meilleur pour toi. Mieux vaut peu avec justice que d'abondants revenus sans droiture. Mieux vaut un cœur droit. Et il y a de merveilleuses conséquences à avoir un cœur droit. On en voit quelques-unes dans la parole de Dieu, j'en ai retenu deux. Le psaume 7, verset 11 nous dit « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Dieu sauve et sauvera toujours ceux qui ont le cœur droit. Et Dieu secourera toujours ceux qui ont le cœur droit. Et il y a une pleine assurance quand on a un cœur droit à marcher dans les voies de Dieu, à nous tenir devant Dieu, à nous tenir même dans la prière comme nous l'avons fait avant cette réunion, à lui faire connaître nos besoins. Et parce qu'on sait que justement quand on a un cœur droit, Dieu nous entend, Dieu nous exauce. Et il y a de merveilleuses conséquences à avoir un cœur droit, d'être sauvé, la plus grande. Il y a aussi ce psaume qui nous dit, le psaume 97, verset 11, « La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » Un cœur droit est un cœur dans la joie. Un cœur droit, c'est un cœur qui vit, qui marche dans la joie. Une joie qui vient de Dieu. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient justement de ce fait d'être sauvé. D'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, d'être en paix avec Dieu. La joie du salut. Et cette joie réelle, Dieu veut la communiquer à tous. Cette joie parfaite. Oui, et il nous la donne quand on a un cœur droit. Alors ce soir pour toi, si tu réalises que justement dans ta vie, à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause des choses qui ne sont pas de Dieu, eh bien tu réalises que tu n'as pas un cœur droit choisi. Mieux vaut un cœur droit, mieux vaut peu avec justice que d'abondants revenus sans droiture. Deuxième proverbe, nous avons lu, toujours Proverbe 16, verset 16, bien ça, je ne me trompe pas. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Mieux vaut la sagesse et l'intelligence. Nous voyons combien Salomon a plusieurs reprises enseigné la sagesse, l'importance de la demander, l'importance de la saisir. Nous voyons ce verset dans toujours les Proverbes, chapitre 4, verset 7, où il est dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Il est question d'acquérir. Et on pourrait se poser cette question ce soir. Qu'est-ce que je cherche à acquérir? Qu'est-ce que je cherche le plus à acquérir? Dans ce monde, on peut chercher à acquérir toutes sortes de choses, toutes sortes de biens. Et on voit cette opposition dans ces proverbes que j'ai choisis, toujours avec les choses terrestres, des choses humaines. L'or, l'argent, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Et il ne faudrait pas comprendre que l'or, l'argent, les biens terrestres sont un problème. J'aimerais vraiment préciser que pour Dieu, ce n'est pas un problème, cette abondance matérielle. Il n'est pas contre, ce n'est pas ça le problème. Mais la question, c'est plus quel attachement j'ai par rapport à l'argent. Ce que Dieu n'approuve pas, ce que Dieu condamne, c'est l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. La Bible nous dit « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent le problème, mais c'est oui, cet attachement qu'il peut y avoir excessif. Et ce soir, le Seigneur nous montre qu'est-ce qu'il y a de meilleur en dehors de ces biens matériels, toutes ces choses qu'on peut acquérir ici-bas. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Qu'est-ce que tu cherches le plus à acquérir? Ce soir, tu peux acquérir la sagesse. Par la grâce de Dieu. Ce soir, tu peux acquérir l'intelligence parce que Jésus-Christ a payé le prix, parce que Dieu a donné ce qu'il y avait de meilleur pour qu'on puisse recevoir ce qu'il y a de meilleur. Et le Seigneur nous appelle simplement pour la recevoir à la lui demander. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Le Seigneur nous le dit, vous connaissez ce verset dans Jacques chapitre 1er, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. C'est important ça, de savoir la demander, savoir demander avec foi et sans douter. Oui, ce soir, tu peux recevoir, acquérir. Et qu'est-ce que tu cherches? Posons-nous cette question dans notre marche chrétienne, dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que nous cherchons à acquérir? Combien est précieuse, oui, la sagesse. Combien nous avons tant besoin de cette sagesse qui vient de Dieu, non pas d'une sagesse humaine, mais de cette sagesse qui vient de Dieu pour tous les choix de notre vie. Combien nous ferions bien moins d'erreurs si nous sachions justement la lui demander et chercher véritablement à l'acquérir, à avoir notre cœur vraiment tourné vers ces choses qui sont bien meilleures que tous ces biens matériels. C'est Paul qui a pu prier pour les Éphésiens et on pouvait voir cela mardi dernier, dimanche encore, c'était cette exhortation. On voit Paul qui prie pour les Éphésiens dans le premier chapitre, verset 17, afin que le Dieu, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et c'est vrai que la connaissance de Jésus-Christ sera toujours le fondement de la sagesse. Cette révélation, la révélation de Jésus-Christ, sa connaissance sera toujours le fondement de la sagesse. Et le Seigneur, ce soir, nous donne de pouvoir recevoir cette révélation, nous donne de pouvoir recevoir de la sagesse. Et pour l'exercer, pour pouvoir eh bien, l'utiliser dans tous les jours de notre vie. Oui, pour le connaître, premièrement, mais pour tous les domaines. Pour tous les domaines auxquels nous sommes confrontés. Mieux vaut, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Oui, ce soir, ne te prive pas. Ne te prive pas, Jésus-Christ a tout accompli. De demander à Dieu de la sagesse, de l'intelligence, du discernement, qu'il t'ouvre les yeux pour marcher dans ses voies. Et troisième proverbe que nous avons lu, « Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » Mieux vaut être humble. Est-ce qu'un chrétien peut être orgueilleux? Malheureusement, on voit qu'un chrétien, oui, peut tomber dans des pièges et peut tomber dans certaines attitudes qui ne sont pas bonnes. Mais un chrétien ne doit pas être orgueilleux. Non, mieux vaut être humble. Et là encore, le Seigneur Jésus-Christ nous montre l'exemple. Dans Philippiens chapitre 2, on voit cet exemple merveilleux de l'humilité de notre Sauveur, de sa grâce envers chacun d'entre nous. Lui qui était au-dessus de tout est descendu au-dessous de tout. Et on voit vraiment cette démarche, cet exemple. Philippiens chapitre 2, verset... Oui, on peut lire, on va voir, on va remonter après par la suite, mais il nous est dit à partir du verset 6, « Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Voilà l'exemple. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous parle pas simplement d'un enseignement à être humble, mais il nous l'a prouvé, il nous donne l'exemple. Il est le modèle que nous avons à suivre. Mieux vaut être humble avec les humbles. Et on voit par la suite, enfin, au début, cette exhortation, à partir du verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oui, si le Seigneur a ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous, il est vraiment très important de toujours considérer, de toujours garder à cœur que nous ne sommes pas les meilleurs, même si le Seigneur a ce qu'il y a de meilleur, et que nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit, et que nous n'avons pas à nous sentir meilleurs que qui que ce soit, mais bien au contraire, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est important, mieux vaut être humble. Voilà ce qu'il y a de meilleur, et le Seigneur nous montre encore cette voie, pour ne pas nous contenter de ce qui est bien, mais entrer dans ce qu'il y a de meilleur. Ce verset nous montre aussi l'importance des relations. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Et c'est très important de réaliser cela. Savoir bien choisir nos relations, savoir bien choisir les personnes avec qui nous sommes. Parce que forcément, ça a des influences aussi. J'aimerais préciser quand même, avec ce passage dans 1 Pierre, que le diable, justement, conduit parfois certaines personnes, certains chrétiens, à tomber dans cette attitude de l'orgueil, parce qu'il sait très bien que quand on tombe dans cette attitude, Dieu nous résiste. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ce passage dans 1 Pierre 5 est un passage souvent que l'on connaît quand, parce qu'il y a ce verset qui nous dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » C'est important de replacer ce verset dans son contexte, et ce contexte, c'est encore une fois l'humilité. Ce passage nous parle de l'importance de l'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Nous puissions vraiment ne pas tomber dans les pièges du diable, mais garder cette humilité dans notre marche de tous les jours, et vraiment dans nos relations, dans notre manière de voir nos frères et sœurs, dans notre manière de voir notre prochain. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Alors ce soir, nous voyons ces trois exhortations, ces trois points, ces trois versets, ces trois proverbes. Vaut mieux. Mieux vaut, nous avons vu, un cœur droit, la sagesse et l'intelligence, mieux vaut être humble. Pour terminer, je dirais que Dieu, comme nous l'avons dit au début, et nous avons été d'accord sur cela, a ce qu'il y a de meilleur, a vraiment ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Gardons-le à cœur, c'est ce que la Bible nous dit. Par ailleurs, dans Hébreux chapitre 11, verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu a toujours en vue ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Et on peut terminer en disant que le meilleur, oui, est devant nous. Que le meilleur est devant chacun d'entre nous. Et ceci dans tous les sens du terme. Que ce soit par rapport à l'éternité, bien sûr, que c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce jour où nous serons dans la présence de Dieu, dans le ciel, et où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, plus d'épreuves, plus de combats. Bien sûr que c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais dès ici-bas, dès maintenant, Dieu met devant nous le meilleur. Et il nous appelle simplement à le choisir. Et par ses exhortations, par sa parole, mieux vaut. Ce soir, tu peux choisir d'entrer dans ce qu'il y a de meilleur. À nous de le vouloir, à nous de le rechercher, à nous de faire ce que le Seigneur nous demande, de mettre en pratique sa parole. Et nous avancerons et nous marcherons de progrès en progrès, de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous amène toujours plus loin, qui nous amène toujours, oui, plus près de toi. Et nous savons que c'est toi qui veux nous amener, Seigneur, toujours à faire des progrès. Et nous voulons, Seigneur, encore ce soir, ne pas nous contenter de ce que nous avons pu recevoir, voir, expérimenter, même si nos cœurs débordent de reconnaissance. Devant tant de grâces, devant tant de bienfaits, devant tant de bénédictions, oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, ton œuvre à la croix. Mais nous savons que il y a une richesse inépuisable et nous savons qu'il y a des bienfaits innombrables que tu désires encore nous faire découvrir et dans lesquels tu veux nous faire entrer, nous voir expérimenter par ta grâce, parce que tu es notre Père. Et oui, et comme un Père terrestre qui cherche ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, nous le voyons aussi dans ta parole, tu as ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors Seigneur, ce soir, nous acceptons, nous voulons choisir d'accepter les chemins par lesquels tu nous fais passer, les épreuves par lesquelles tu nous fais passer, les difficultés, parce que nous savons que toute chose concourt à notre bien. Nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ta présence, parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur de nous remplir encore ce soir de ton esprit et de renouveler, de fortifier chacun, d'éclairer ce qui peut être, Seigneur, ont des difficultés, Seigneur, à voir ces réalités, à voir ce meilleur, à voir ces choses merveilleuses que tu en réserves pour chacun. Oui, ouvre les yeux encore et viens par ton esprit nous conduire. Au nom de Jésus, Amen.